Bienvenue dans Les Voix de l'Engagement, l'émission qui donne la parole aux bénévoles. Une semaine sur deux, le mercredi à 13h, c'est votre rendez-vous militant. Sur Radio G 101.5 et sur radio-g.fr. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Voix de l'Engagement avec Isabelle, Didier et Fabrice.
Bonjour.
Bonjour.
Pour parler de l'engagement et de la santé visuelle, nous aurons le plaisir d'accueillir Colette Chupin, bénévole et représentante départementale de l'association France Glaucome. Nous retrouverons ensuite la chronique des jeunes engagés, Gwendal et Cheikh Ibrahim, puis nous terminerons par les brèves de l'ESS. Mais avant cela, Isabelle évoque un sujet qui me tient à cœur, la prévention en santé.
Prendre soin de soi est important, mais ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi l'accompagnement des personnes en matière de prévention santé est indispensable. Les mutuelles sont des acteurs majeurs dans ce domaine. Prévenir, c'est permettre à chacun de devenir acteur de sa propre santé, mais aussi de celle des autres. C'est également alerter sur les risques du quotidien. Une mutuelle comme MGEN organise sur tous les territoires des actions de sensibilisation, de dépistage et propose des ressources, outils et programmes de prévention innovants. L'arrivée des bilans de prévention, pour tous, à des âges clés de la vie, permettra à chacun, avec l'aide de professionnels de santé, de faire le point sur ses besoins en santé et d'agir pour l'améliorer. Pour les plus âgés, la prévention de la perte d'autonomie est un facteur clé du bien vieillir. Le déclin sensoriel, avec l'âge, n'est pas qu'une question de confort. La perte d'audition, par exemple, est vecteur d'isolement. Elle est associée à une plus grande fréquence des troubles mentaux, du déclin cognitif, des chutes. Avec la baisse de l'acuité visuelle, il devient plus difficile de se débrouiller tout seul au quotidien et de participer à la vie sociale. Il est important, tout au long de notre vie, de penser à se protéger en veillant à ne pas passer trop de temps devant les écrans, par exemple, et en limitant au maximum les bruits agressifs qui nous entourent. En ce qui concerne les besoins spécifiques liés à une maladie, certaines associations se concentrent sur la sensibilisation à cette problématique et sa prévention. Par l'information et la mise à disposition de ressources, ces associations contribuent à promouvoir la santé. Encore une fois, le rôle des bénévoles est essentiel. Colette Chupin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes bénévole dans l'association France Glaucome en Maine-et-Loire. Nous nous sommes croisés la première fois au CHU d'Angers. Pourquoi est-ce important pour vous d'être sur le terrain ?
Ah, il est important pour moi d'être sur le terrain parce que l'association France Glaucome est une association très méconnue, d'abord parce qu'elle est très jeune et qu'il était important que dans l'ouest de la France, on puisse réaliser quelque chose pour aider les patients glaucomateux. J'ai donc pris contact avec le CHU d'Angers où je suis suivie depuis 32 ans au sujet du glaucome. Ils m'ont très très bien accueilli. Ils m'ont accordé la possibilité de mener une permanence. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés en effet. Une permanence France Glaucome qui permet d'être disponible aux patients qui passent et de répondre éventuellement à leurs questions et de leur présenter les possibilités de l'association.
Alors, quel est votre rôle exactement dans l'association ?
Alors, mon rôle dans l'association, c'est simplement un rôle de bénévole, tout simplement. Et je me suis en quelque sorte dotée d'une responsabilité que j'espère mener à bien, c'est de créer justement cette antenne en juin, puisque l'association France Glaucome a des antennes dans de grandes villes, en particulier donc Paris, avec l'hôpital des 15-20, l'hôpital Saint-Joseph, à Bordeaux, à Lyon, mais Montpellier. Mais il n'y avait rien dans l'Ouest. Donc il était important qu'on puisse avoir des recours directs à l'association sur le Maine-et-Loire.
Pourquoi vous vous êtes senti investi de cette mission ?
Alors, se sentir investi d'une telle mission, évidemment, ça suppose que l'on s'est déjà senti investi par le glaucome. C'est-à-dire qu'il y a déjà, donc, je disais, 32 ans que je suis soignée pour le glaucome et que j'ai vu la maladie progresser. Et je me suis rendu compte combien il était difficile pour un patient, d'abord d'en avoir le diagnostic et ensuite de vivre avec au fur et à mesure de cette dégénérescence du nerf ophtalmique et des conséquences que cela entraîne dans la vie sociale, dans la vie personnelle, dans la vie quotidienne, au niveau de la mobilité, au niveau des activités de toutes sortes. Et donc, je me suis sentie dans le devoir de m'engager pour les autres autant que pour moi.
Cet engagement vous apporte-t-il quelque chose sur le plan personnel ?
S'engager pour les autres, c'est d'abord donner du sens à sa maladie. La première chose, c'est cela. On est tous dans l'inquiétude face à un glaucome. Donc, pour ne pas sombrer justement dans l'inquiétude et dans l'angoisse, le mieux, c'est de devenir acteur, vous l'avez dit tout à l'heure en matière de prévention, devenir acteur de sa maladie et transformer sa maladie en soutien aux autres et surtout essayer de faire qu'elle soit utile, utile aux autres, prévenir et encourager le dépistage et encourager les possibilités de recherche au sujet du glaucome.
Avez-vous d'autres liens avec des associations angevines pour lesquelles il y aurait du sens à travailler en relation ?
C'est une excellente question, je dirais, parce que comme France Glaucome est une association toute jeune, elle a besoin aussi pour se faire connaître des autres associations, mais surtout, elle a besoin de participer au travail des autres, car c'est une déficience visuelle au milieu de toutes les autres. Et donc, nous avons établi des liens avec Valentin Aoui, bien entendu. Des liens peut-être avec Rétina France, ils sont en cours de construction. Donc c'est ainsi que nous pouvons, grâce à des partenaires, unir nos forces pour essayer de soutenir tous les malades atteints de déficience visuelle.
Et par rapport à ce réseau-là que vous activez, est-ce que vous avez, de par votre antériorité, de votre expérience, été vers des entreprises ou des structures sur lesquelles il y aurait peut-être un travail spécifique à conduire ?
Vers des entreprises, non, pas particulièrement. Pour l'instant, l'association à Angers est encore trop jeune et nous n'avons pas encore entamé de relations directes avec des entreprises.
Et votre relation est essentiellement avec le CHU d'Angers ?
La relation pour l'instant est essentiellement avec le CHU d'Angers. Nous cherchons à établir une relation avec les ophtalmologistes de la ville d'Angers, les ophtalmologistes qui travaillent en libéral. Et donc, pour l'instant, nous sommes en quête de liens plus forts.
Merci Colette Chupin. Tout de suite, la pause cinéphile et musicale avec Fabrice aux commandes.
Alors, nous allons écouter une chanson extraite de la comédie musicale Dancer in the Dark de Lars von Trier, sortie en salle en 2000. Et ce film a reçu la Palme d'Or à Cannes. On peut y apprécier la prestation remarquée de la chanteuse islandaise Björk, tenant le rôle d'une émigrée tchèque qui élève seule et difficilement son fils, tout en travaillant dans une usine américaine. Atteinte d'une maladie héréditaire qui lui fait perdre la vue, elle tente de réunir une somme d'argent importante pour éviter à son fils de connaître le même sort. On écoute I've Seen It All par Björk en duo avec Peter Stormare.
Tower and the Empire State. was a sigh on my very first day.
Your grandson stand as he plays with your hair.
To be honest, I really don't care.
Voix de l'engagement, l'émission à l'écoute des bénévoles sur Radio G 101.5.
De retour avec notre invitée, Colette Chupin, bénévole dans l'association France Glaucome. Pour débuter cette seconde partie, pourriez-vous nous préciser qu'est-ce que le glaucome ?
Oui, c'est une maladie pernicieuse, le glaucome. C'est une maladie dont le patient ne s'aperçoit absolument pas. Alors, elle touche, en réalité, elle touche le nerf optique. Et le glaucome s'opère lorsque dans le système trabéculaire, c'est-à-dire une sorte de petit canal par lequel s'écoule l'humeur aqueuse de l'œil, il y a obstruction et toutes les humeurs aqueuses ne peuvent plus s'écouler comme d'habitude. Elles exercent une pression et la première manifestation du glaucome, c'est la montée de la pression intraoculaire, ce qu'on appelle la PIO. Elle n'a rien à voir avec la tension nerveuse, et c'est la pression intraoculaire. Comment on s'aperçoit qu'on a un glaucome ? On s'aperçoit qu'on a un glaucome lorsqu'il est déjà avancé, parce que c'est une maladie dont le patient ne voit pas les dégâts. Petit à petit, la vue devient floue, parce qu'il y a des points sur la vision qui ne sont pas perçus, mais l'autre œil compense éventuellement. Le cerveau s'adapte et en réalité, on ne voit pas que l'on perd progressivement le champ visuel extérieur. C'est toujours dans ce sens-là que cela progresse. Et puis ensuite, il y a d'autres manifestations, bien entendu, telles que une grande sensibilité à la lumière, une photophobie qui devient parfois difficile à supporter, et puis cette vision de flou constant. La PIO, elle se régule, c'est une maladie que l'on peut malgré tout maîtriser lorsqu'elle est prise à temps. Et c'est là que le dépistage est particulièrement important. Toutefois, il y a des maîtrises de PIO qui n'empêchent pas le glaucome de se développer. La recherche est là pour savoir pourquoi et comment. Mais cette pathologie est une maladie neurodégénérative. Et donc, elle est à vie. On la maîtrise en essayant de suivre son traitement au mieux, traitement de collyre, traitement par laser, traitement par implant, traitement par chirurgie invasive ou pas.
Merci beaucoup. Vous êtes donc la représentante locale de l'association France Glaucome. Quelles sont vos relations avec la structure nationale ?
Alors, ce sont des relations étroites, bien entendu, puisque je ne suis que déléguée, en quelque sorte, par l'association nationale. Cette association nationale France Glaucome est une association qui est née en 2008. Elle a été créée par le père d'une jeune fille de 7 ans, une petite fille de 7 ans qui était victime d'un glaucome congénital. Et petit à petit, elle a été reprise en main par deux femmes courageuses actuellement qui donnent tout le dynamisme à l'association. Nous sommes en tous les bénévoles, nous sommes en étroite collaboration, nous travaillons tous ensemble par visio puisque nous sommes répartis les uns et les autres sur tous les coins du territoire. Il y a des points relais où le patient peut appeler pour parler de sa maladie. La France est divisée en 4 régions, donc 4 points relais dont on trouve les adresses sur le site de l'association. Et c'est ainsi que nous essayons d'avancer, de progresser en trouvant des actions possibles.
Avez-vous des homologues sur les autres départements de notre région Pays de la Loire ?
Non, il n'y a rien dans l'Ouest, c'est une région très très pauvre.
Vous organisez des réunions départementales avec vos adhérents ?
Alors, pas encore, parce que nous ne sommes pas encore suffisamment nombreux pour avoir une réunion de consistance. Donc, nous sommes plutôt en relation avec par téléphone. Lorsque les gens ont besoin de parler, il y a une adresse téléphonique, une adresse mail. Et donc, c'est ainsi que nous rentrons en communication, que nous essayons de répondre à leurs questions et que petit à petit, nous allons créer une équipe et un ensemble d'adhérents qui vont pouvoir peut-être se retrouver sur les départements. Ce sont des grands espoirs que je formule et j'ai besoin de bénévoles, j'ai besoin de gens qui s'engagent, j'ai besoin de gens qui veulent bien donner un petit peu de leur temps, même de façon très ponctuelle.
Pour adhérer, il n'est pas nécessaire, ma question est peut-être bête, il n'est pas nécessaire d'avoir été victime de la pathologie ?
Pas du tout, on peut adhérer à l'association pour soutenir l'association. Il va de soi que tout ce qui est donné à l'association est au profit des patients, donc tout adhérent peut bien sûr participer.
Isabelle, dans son édito, a mis en avant le rôle préventif, les actions préventives. Quelles actions proposez-vous en ce sens ?
Alors, un des objectifs de l'association, outre le fait de soutenir les malades et de répondre à leurs inquiétudes et de leur faire connaître davantage la maladie, c'est bien entendu le dépistage. Alors, travailler sur le dépistage, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut du matériel, parce qu'il faut des médecins qui soient aussi compétents. Parce qu'il faut éventuellement des opticiens qui aient du matériel pour prendre la PIO, prendre la pression. Donc, c'est quelque chose qu'il faut organiser et ce n'est pas toujours facile. Jusque-là, l'association travaillait avec l'UNADEV, l'Union donc des aveugles et déficients visuels, qui travaille, elle, dans un rapport de proximité avec le public, puisqu'elle possède un bus qu'on appelle le bus glaucome qui parcourt la France. Et elle s'arrête dans les villes pour pouvoir offrir aux patients la possibilité d'un dépistage.
En dehors des spécialistes que sont les ophtalmologistes ou les orthoptistes, quel rôle peut jouer la médecine générale pour mieux accompagner justement le dépistage ?
Et je crois que le médecin généraliste a tout intérêt à conseiller à ses patients d'aller voir un ophtalmo et de demander surtout, et je crois que c'est là que chacun d'entre nous doit être conscient, l'acuité visuelle n'est pas le seul privilège de l'œil. Il faut aussi travailler sur la réaction même de l'œil et donc aussi demander à l'ophtalmologiste de prendre la PIO, de prendre sa tension. C'est ainsi que l'on va dépister. Il faut savoir qu'il y a 1,2 million de personnes en France atteintes de glaucome et qu'il y en a à peu près 400 000 qui ne sont pas dépistés. Donc, ils sont dans la nature parmi ces personnes. Donc, c'est quelque chose qui, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, peut devenir grave si ce n'est pas soigné. Il faut le maîtriser par tout de suite la prise en compte de la maladie et l'observance d'un traitement. Donc, nous sommes très inquiets lorsque nous voyons que des patients ne vont jamais chez l'ophtalmo prendre leur tension. Donc, ça, c'est un grand conseil absolument indispensable.
avec l'arrivée des bilans prévention aux quatre âges, là, est-ce qu'il y aurait un âge plus spécifique pour justement se faire dépister?
Oui. Il y a des glaucomes qui se déclarent de façon violente et de façon très précoce, les glaucomes congénitaux ou les glaucomes juvéniles. Mais le glaucome à angle ouvert, qui est le plus redoutable parce que c'est le plus insidieux, c'est le plus invisible, mais c'est celui qui dure toute la vie, c'est à partir de 40 ans. Très souvent, les glaucomes sont détectés de façon fortuite. C'est au hasard d'une visite pour aller renouveler ses lunettes que l'ophtalmologiste prend l'attention et découvre le glaucome.
Est-ce que vous auriez des besoins spécifiques que nous pourrions relayer à l'occasion de cette émission?
Oui, très certainement. Je pense que la MGEN peut être un interlocuteur fiable pour ce qui est du glaucome, en particulier prévenir les patients justement sur ces urgences, sur le caractère héréditaire aussi de la maladie. Car on a plus de chances d'avoir dans sa famille des descendants ou des collatéraux atteints de glaucome si on a soi-même un glaucome. Donc il faut prévenir ses enfants et les encourager à prendre la pression intraoculaire.
Avez-vous un temps fort de mobilisation dans l'année que vous avez identifié?
Pas encore, parce que nous sommes deux à véritablement travailler au sein de cette association sur Angers même. Donc pour l'instant, nous essayons plutôt, je vais dire, de répondre aux besoins ponctuels des patients. Nous n'avons pas encore de véritable temps fort. Sur le plan national, il y a la semaine mondiale du glaucome du 10 au 17 mars, qui est une semaine qui a pour vocation, en effet, de mettre l'accent sur cette maladie, de la faire reconnaître. Mais dans le Maine-et-Loire, nous n'avons rien d'autre que cette émission présente, pour l'instant, de prévu.
Quel est le rôle des associations dans le parcours de soins pour les patients?
Ah, c'est un rôle très très important qui va devenir de plus en plus important. On sait que les patients, grâce à leur expertise de la maladie, peuvent apporter un regard neuf aux équipes soignantes. Et l'on entend de plus en plus parler du patient acteur de sa maladie, mais aussi de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Et dans les services de maladies chroniques en particulier, se met en place une série de programmes d'éducation thérapeutique où les patients experts, les patients ressources, les patients partenaires peuvent apporter un regard tout à fait neuf par rapport aux injonctions médicales. Le médecin n'a pas forcément le temps de se pencher sur les effets de sa prescription, sur les difficultés du patient au quotidien. C'est aux patients d'apporter cette connaissance. Et on sait qu'aujourd'hui, au cours des études de médecine, on va peu à peu aller de plus en plus vers ce regard sur l'éducation thérapeutique.
Si vous deviez cibler un message de prévention, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui?
Eh bien, un message de prévention, c'est penser que le glaucome existe comme les autres maladies, les autres pathologies de déficience visuelle. On entend beaucoup parler de DLMLA, on entend beaucoup parler de rétinopathie, mais le glaucome existe aussi. Et donc, pensez tous à bien vous faire examiner par votre ophtalmologiste et à prendre votre attention.
Merci Colette Chupin. On retrouve tout de suite la chronique des jeunes engagés.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Enzo, est-ce que le Secours populaire, c'est une association?
Créé en 1945, le Secours populaire français est une association reconnue d'utilité publique. Sa devise, tout ce qui est humain est notre.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est l'action du Secours populaire?
Nos missions sont lutte contre la grande exclusion, aide alimentaire, vestimentaire et financière, accompagnement scolaire et alphabétisation, accès à la culture, aux loisirs et au sport, accès aux vacances, solidarité dans le monde, grands événements solidaires.
Qui a le droit d'aller au Secours populaire?
Le Secours populaire aide les personnes en situation de précarité. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez solliciter cette aide auprès de ce mouvement.
Et les garçons au collège, si on a des difficultés financières, auprès de qui on peut aller chercher de l'aide?
À Mme Brienne.
Et à la gestionnaire. À Mme Maria. et on fera une demande de bourse.
Nous irons rencontrer juste après Madame Arbia en lui posant quelques questions sur comment fonctionnent les bourses au sein du collège.
Nous sommes dans le bureau de Madame Arbia. Bonjour.
Bonjour.
Première question, pouvez-vous expliquer le fonctionnement des bourses ?
Les bourses sont attribuées à partir des conditions de revenus des parents et sont à demander en début d'année scolaire, en septembre et octobre. Elles sont attribuées pour la durée de l'année scolaire, de septembre à juin, et servent à payer souvent la restauration scolaire.
Est-ce que c'est utile dans notre collège ?
Oui, c'est quelque chose qui est utile dans notre collège, puisque comme ça, on peut aider les familles qui sont en difficulté à régler la cantine ou à faire d'autres choses et surtout à faire en sorte que les élèves mangent à la restauration.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Les brèves de l'ESS.
Si vous souhaitez vous engager pleinement au sein des Restos du Cœur d'Angevin, sachez que l'association recherche un animateur pour son pôle ramasse mutualisée. La mission consiste à organiser et animer l'équipe qui collecte régulièrement les denrées alimentaires et d'hygiène dans les grandes et moyennes surfaces du Maine-et-Loire. Cette mission est assumée en binôme avec le responsable actuel qui assurera la formation. Sur le même thème, mais dans un engagement en durée moins conséquent, mais aussi utile, la Banque alimentaire du Maine-et-Loire recherche également des bénévoles pour assurer des collectes de denrées auprès des clients lors des courses en magasin pour le week-end du 5, 6 et 7 avril. Si vous pouvez leur donner 2 heures de votre temps, n'hésitez pas à les contacter via la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Enfin, la Fédération étudiante des associations angevines, la FE2A, recherche pour son épicerie sociale et solidaire à Angers des jeunes bénévoles. Cette épicerie vise à lutter contre la précarité étudiante, tant sur le plan alimentaire, manifeste aujourd'hui avec l'inflation, que sur le plan social. Son local est ainsi un lieu d'approvisionnement en produits de première nécessité, mais également un lieu de vie et d'information partagée. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site ou de contacter l'Université d'Angers, partenaire de l'association FE2A.
Dans la prochaine émission, nous recevrons Valérie Lefièvre, bénévole de l'association Amnesty International. Nous arrivons en fin d'émission. Merci beaucoup, Colette Chupin, pour votre témoignage et votre engagement au sein de France Glaucome.
Je vous remercie beaucoup de votre accueil. J'ai été contente de parler de l'association. Et je voudrais rappeler la permanence qui existe au CHU le premier jeudi de chaque mois, de 9h à 12h, où nous sommes présents pour répondre aux besoins des gens qui viennent consulter, mais aussi à toute autre personne qui voudrait, en aide pour aider quelqu'un de sa famille ou un ami, venir chercher des documents. N'oubliez pas non plus le site de France Glaucome, car il est très facile de trouver donc, le site de France Glaucome sur Internet. Et vous pouvez même taper France Glaucome Angers, vous trouverez toutes les coordonnées pour me contacter.
Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour la découverte d'une nouvelle personnalité du monde de l'ESS et de nouvelles chroniques. Au revoir à tous.
Au revoir.